ça sont les comètes de Madagascar. La femelle et le mâle, tu vois. Et le plus petit, c'est le mâle. Tu vois le jaune, là? C'est un citron. On le trouve à la campagne. Tu as dû en voir déjà.
Jamais.
Pas très observatrice.
J'ai jamais été à la campagne.
Oh, bon, mais enfin, tu sais au moins comment ça naît, un papillon.
CO2, mon amour. Denis Chessou.
On fera un jour une émission sur les papillons, ça je vous le promets aussi. CO2 Mon Amour, votre magazine de nature et d'environnement avec Alain Gadan et Benjamin de la Gâtinais à la technique, assisté de Séverine Bouvard, c'est Christophe Humbert, oui, indispensable, irremplaçable, qui réalise l'émission. Alors, ce 12 octobre est un samedi un peu inhabituel parce qu'on a envie de dire « Chérie, baisse un peu l'abat-jour », non pas en raison d'un brusque retour de fougue printanière, mais parce que c'est le jour de la nuit. Ah bon, qu'est-ce que c'est le jour de la nuit? Eh bien, c'est une opération qui, au moyen de nombreuses manifestations partout en France, cherche à sensibiliser aux effets de la pollution lumineuse tout en gardant un œil sur la protection de la biodiversité nocturne et du ciel étoilé. C'est donc une initiative plutôt chouette qui ne s'adresse pas qu'à ceux que le noir effraie. Chouette, effraie, d'accord, je sous-titre pour mon réalisateur car c'est l'heure du café pour tout le monde. Il est même possible qu'à la faveur de cette nuit retrouvée, certains en profitent pour faire la tournée des Grands Ducs. Je m'arrête là. Alors plus sérieusement, il n'est pas inutile de souligner que l'excès d'éclairage urbain entraîne aussi bien des problèmes de santé, hein, le cycle du sommeil peut être perturbé, que des dégâts sur la faune, reproduction de certains animaux qui peut être compromise, le GPS des oiseaux migrateurs qui n'en peut plus. Il va aussi sans dire que la facture pour le contribuable n'est pas neutre non plus, car nous avons 8 800 000 points lumineux en France, 5 millions de lampes sodium haute pression avec un jaune blafard, et donc ça représente quand même 25 à 30% de la facture des uns et des autres. L'ADEME et l'EDF estiment en outre que près de 40% de l'énergie diffusée par nos lampadaires se trouve gaspillée du fait de la surpuissance des éclairages de mauvaise qualité ou leur vétusté. Quant à l'argument sécuritaire, très à la mode, l'argument sécuritaire, eh bien, il s'éteint de lui-même quand les statistiques de la police précisent que 80% des cambriolages et agressions ont lieu en plein jour. Alors, excellente nuit étoilée à tous. Et puis à la faveur de cette nuit où l'on n'a plus peur du noir, ayons une pensée pour ces militants de Greenpeace qui sont plongé dans des ténèbres quasi-soviétiques, autrement plus inquiétantes. Au sommaire de cette émission, Suisse et biodiversité. Oui, on va voir un petit peu ce qui se passe là-bas et on va rejoindre Julien Perrault, car nous fêterons avec lui les 30 ans de sa revue qui s'appelle La Salamandre. Il a commencé tout jeune en culotte courte, il nous en parlera. Et puis, pour rester un peu dans le même sujet, eh bien, Jean-François Noblet nous rejoindra aussi avec un ouvrage qui s'appelle La nature au café du commerce, préjugés et lieux communs sur la faune et la flore. On va débuter par l'actualité.
Les États-Unis connaissent un nouveau printemps industriel. Voici pourquoi envoyés spéciaux dans l'Est américain.
C'est bien, ça nous donne du travail, ça crée des emplois.
On est vraiment contents.
Pour ces détracteurs, le gaz de schiste est un cauchemar écologique, mais pour les industriels de cet État, c'est un trésor économique, synonyme de compétitivité et de retour de l'emploi.
Gaz de schiste, la bataille de France a commencé, les Antilles, les lobbies, les labos, c'est le numéro de Terra Eco, magazine qui change le monde, en tout cas qui essaie, là aussi comme notre émission, du mois d'octobre 2013, donc la bataille de France a commencé sur le gaz de schiste, déjà depuis un certain temps sans doute. Walter Bouvin va vous retrouver depuis nos amis, depuis France Bleu à Nantes, donc Loire-Océan, on les remercie de vous accueillir. Vous êtes le directeur de la publication de Terra Eco, donc c'est l'actu, bonjour Walter Bouvin.
Bonjour Denis. Absolument, nous sommes dans l'actualité puisque le Conseil constitutionnel a définitivement, enfin en tout cas définitivement, temporairement, fermé la porte à l'exploitation du gaz de schiste en France. Depuis la loi Jacob de 2011, tout est gelé. On ne peut a priori plus demander de nouveaux permis ni d'exploration ni d'exploitation et a fortiori pas exploiter le gaz de schiste en France. Il y avait un certain nombre de permis qui avaient été accordés d'exploration. Ces permis ont été maintenus, certains ont été annulés, mais 13 permis ont été maintenus. Il y a deux permis qui semblent être sortis des tiroirs en cette rentrée. Et donc, ils font leurs explorations, ou en tout cas, ils cherchent à les faire, parce que pour certains, Ils ont bien les autorisations, mais ils n'ont pas encore trouvé les terrains.
Mais on ne cherche pas en fait du gaz de schiste, on va dire, mais du pétrole conventionnel. Le problème, c'est qu'on les cherche avec des méthodes qui ressemblent à celles du gaz de schiste.
Voilà, officiellement, comme l'exploitation du gaz de schiste est interdite en France, il n'y a aucun motif à en rechercher. Cela dit, ce qui intéresse les pétroliers, ce n'est pas les pétroles conventionnels, puisque on peut dire que la France, de ce point de vue-là, était déjà ratissée en long et en large. Mais c'est le prétexte qu'ils invoquent pour poursuivre leurs recherches. Ils disent, on cherche du pétrole parce qu'on pense qu'il reste quelques poches ici ou là. Mais les méthodes qu'ils utilisent, notamment ce qu'on appelle les carottages, les prélèvements qu'ils font, sont des carottages de grande amplitude et qui sont le signe que l'on cherche du gaz de schiste. Et donc ça, ça se passe principalement, si on devait découper la France en deux, partie ouest, partie est, on le trouve principalement dans la partie est de la France et avec un très très gros point localisé en Seine-et-Marne.
D'accord, et puis aussi donc la région Rhône-Alpes qui va descendre jusqu'à l'est, etc.
Rhône-Alpes, un peu le nord. Et puis alors, il y a le gaz de schiste, on cherche aussi du gaz de houille qui lui est un peu moins problématique pour nos enjeux environnementaux mais qui est en cours d'exploration et d'exploitation, même si ce n'est pas très significatif pour le moment.
Alors, dans ce dossier qui a été réalisé par Karine Lelouette et puis Thierry Shepman, on se rend compte que ce n'est pas forcément de la politique, mais c'est du poker menteur. C'est-à-dire que les industriels prétendent de ne plus chercher de gaz de schiste, le gouvernement dit ne pas vouloir leur exploitation. Quels sont les arguments maintenant aujourd'hui ?
Le principal argument, c'est souvent le même, c'est l'argument économique. Un Premier ministre, Michel Rocard, avait dit que la France était bénie des dieux.
Oui.
Parce que son sous-sol regorgeait de gaz de schiste. Et c'est un argument qui est repris en cœur par tous les défenseurs du sujet, y compris les défenseurs les moins spécialistes du sujet. En réalité, on a fait des extrapolations à partir de ce qu'on croit connaître du sous-sol français, et en se calquant à peu près sur la situation américaine, qui est très particulière, puisque là-bas, alors, c'est une vraie explosion de gaz de schiste depuis 10 ans, avec des forages, avec 600 000 emplois, avec des impacts sur le prix du gaz qui sont considérables. Et donc, en fait, en gros, on fait une règle de 3 en disant « Bon, ça s'est passé comme ça aux États-Unis, voilà ce qu'on pense avoir en France. » Donc, paf, je sors de mon chapeau 100 000 emplois. Sauf que aujourd'hui, la réalité scientifique, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a sous les pieds. Et je dirais, on ne sait pas tant du point de vue des pros que des anti. On n'est pas capable de dire aujourd'hui qu'on a du gaz de schiste en quantité suffisante et exploitable, pas plus qu'on est capable de dire l'inverse.
Est-ce que l'on pourrait forer sans polluer aujourd'hui ?
Alors, cet argument est le plus compliqué pour les défenseurs du gaz de schiste parce qu'ils voient bien que la seule technique aujourd'hui qui est opérationnelle, c'est la fracturation hydraulique. La fracturation hydraulique, c'est pas possible de l'utiliser sans avoir d'impact environnementaux, voire sanitaire. D'abord, ça consomme des quantités d'eau absolument astronomiques. On recourt à des produits chimiques. Alors, c'est un vrai bouillon de culture qui est plein de dommages pour l'environnement, au moins de façon locale. Et puis, si ça se passe mal, eh bien, ça peut se répandre jusqu'aux nappes phréatiques, notamment. Donc, il y a un risque. On ne dit pas qu'il est absolu, on ne dit pas que ça arrive tout le temps, mais le risque est là. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut exploiter sans conséquences environnementales et sanitaires ? La réponse est plutôt non.
On pourrait d'ailleurs ajouter aussi le CO2 et le méthane qui se dégagent. Mais ça voudrait dire qu'éventuellement, on pourrait demander aux industriels de provisionner les dégâts à venir. Et c'est peut-être là que ce n'est pas rentable.
Dans la vision un peu 20e siècle, Denis, je vois bien que vous faites l'avocat du diable.
Oui.
On pourrait dire, on va quand même forer parce que c'est la crise, parce qu'on a besoin d'argent, parce que c'est de l'énergie. Et tout ça, c'est même pas faux. Et donc, on va quand même essayer. Puis on va demander aux industriels de faire bien attention. Et puis si ça part en quenouille, de réparer. Alors le problème, c'est que si on regarde la situation américaine, à force de forer, et là-bas, il y avait beaucoup de gaz de schiste, ils ont fini par mettre des quantités importantes sur le marché, ces quantités ont fait beaucoup baisser les prix. Ce qui fait que les forages ne sont plus rentables si on les prend individuellement. La seule chose qui rend l'opération encore supportable d'un point de vue économique, c'est le fait qu'après un premier puits qui n'est pas rentable en soi, on va en forer un second qui va permettre de payer le premier, puis un troisième qui va payer le second, et ainsi de suite. Donc une espèce de fuite en avant. Mais cette fuite en avant, elle risque de mener, d'ailleurs elle a déjà mené à la faillite de plusieurs industriels qui n'ont pas les reins assez solides pour assumer cette logique d'endettement, parce qu'il faut, il faut avancer l'argent pour faire les forages, et puis on touche l'argent plus tard de l'exploitation. La question qu'on pose, c'est si demain on ouvre l'exploration puis l'exploitation de façon massive, si on trouve du gaz de schiste, si on sait que ça a des impacts environnementaux et sanitaires, alors qui sera là pour payer la facture si jamais il y a des dommages. Bien, certainement pas les entreprises qui auront fait faillite parce qu'elles auront imaginé un Eldorado qui n'est pas là. Donc là, il y a une question de responsabilité. On voit un peu ça sur le nucléaire. En gros, qui est-ce qui paye en dernier ressort ?
Grâce à l'extraction du gaz et du pétrole de schiste, la production américaine de pétrole et de gaz sera supérieure à celle de la Russie en 2013. Cette année, écrit le Wall Street Journal, qui cite l'Agence américaine d'information sur l'énergie et l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, les États-Unis deviendront le premier producteur mondial d'hydrocarbures. Une chute des prix sur fond de crise économique mondiale pourrait torpiller la production de gaz de schiste qui s'avère coûteuse, rappelle le quotidien économique américain.
Je vais me tourner maintenant vers un avocat qui connaît très bien ces sujets, puisqu'il s'agit de Christian Huglot. Christian Huglot, vous venez de sortir aussi un ouvrage qui s'appelle « Avocat pour l'environnement ». Et là, on retrouve un certain nombre de combats, entre autres celui de l'Amo Coccalis. Et vous suivez aussi ce dossier gaz de schiste. Donc l'actualité hier, on l'a bien compris, le Conseil constitutionnel rejette le recours du pétrolier Choubar et valide la loi de 2011. Décryptage de votre part, s'il vous plaît.
Dans cette affaire, je suis l'avocat de la région Île-de-France, du département de Seine-et-Marne, des associations également dans le Gard. Donc on s'est battu pour effectivement faire rejeter le recours de la société Choubar en question, mais la vraie question qui se pose pour demain, c'est celle de savoir comment va évoluer le code minier, parce que effectivement, dans l'état actuel des choses, notre ami a tout à fait raison, je pense que les pétroliers ne peuvent rien faire, parce que les autorisations qui leur ont été données sur la base de textes qui ont été annulés par le Conseil d'État au mois de juillet. Donc, pratiquement, leurs espoirs s'est fermé. Ce qu'ils vont essayer de faire pour jouer au chat à la souris, c'est d'essayer de réclamer de l'argent. Il y a certaines qui ont déjà annoncé 1 milliard d'euros. Tout ceci est fantaisiste, et je le dis pour nos auditeurs, parce que je connais bien ce genre de matière, c'est qu'en matière de ce qu'on appelle la responsabilité du fait des lois, on ne peut obtenir, et c'est bien une loi qui l'a interdit, elle est validée par le Conseil constitutionnel, en matière de responsabilité des lois, le législateur n'est pas fautif. Mais les décisions du Conseil d'État nous disent que on peut peut-être obtenir dans des cas exceptionnels une indemnisation quand on justifie d'un préjudice grave et spécial. Mmh. Dans notre affaire, le préjudice spécial, il y a plusieurs sociétés, donc par conséquent, ce n'est pas sur une seule tête. Deuxième observation, en ce qui concerne la gravité du préjudice, cette condition n'est pas remplie, puisqu'en toute hypothèse, ils ont dépensé un tout petit peu d'argent pour déposer des dossiers, ils ont fait un peu de circulation, ils ont exposé des frais, mais le simple fait d'avoir une autorisation d'explorer n'est pas donné de façon automatique pour une exploitation. Donc tout ça, c'est du bluff, et ils vont essayer de donner mauvaise conscience aux Français et à l'État français pour essayer d'obtenir quelque chose sur un futur code minier.
Walter Bouvet, autre question quand même qui est assez importante, est-ce que l'on ne peut pas essayer de penser différemment ? C'est-à-dire qu'on parle de transition énergétique, est-ce que le gaz de schiste est bien approprié ?
Il y avait eu une proposition qui était dans l'air, qui était de dire si on avait du gaz de schiste, on pourrait l'exploiter et à partir de là, financer une partie de la transition énergétique. Bon, on peut toujours en débattre. Aujourd'hui, les choses n'étant pas avérées, on ne va pas non plus tabler sur cette recette improbable pour financer la transition énergétique. Si on voulait arriver aux 100 000 emplois qui sont annoncés par l'industrie du forage, à supposer qu'il y ait le gaz de schiste nécessaire pour ça, il faudrait ouvrir 30 puits par jour pendant 10 ans. C'est proprement irréaliste.
C'est bien quand on fait du tourisme dans l'Ardèche, par exemple, ou etc. Quoi.
Alors voilà, en plus, sans prendre en compte, parce qu'on parle de dédommagement à l'instant, les activités touristiques en lien avec les ressources naturelles, la question de l'eau, il y aurait forcément des impacts. Et alors, quid des dédommagements pour les activités qui seraient ainsi perturbées ? Donc, le mieux, c'est de dire, aujourd'hui, on a peut-être une réserve sous le pied. Bon, ok. Est-ce qu'il vaut mieux pas concentrer nos investissements, concentrer l'effort de la nation sur une vraie priorité qui est la transition énergétique, en trouvant d'autres moyens de financement, en se disant que là, on va créer de l'emploi durable, non délocalisable, de l'innovation, qu'on va travailler d'abord sur la réduction de nos consommations d'énergie avant même d'ajouter de l'énergie fossile sur le marché qui en a déjà suffisamment. C'est une question de choix de société. Et bien sûr, je reviens sur l'argument de Hugo Leplage, et qui est repris effectivement par les défenseurs du gaz de schiste. S'il aujourd'hui, il venait demander une indemnisation parce qu'on ne les autorise pas à exploiter, ce serait quand même un peu fort dans la mesure où ce que l'on entend depuis plusieurs mois, c'est « mais ne vous inquiétez pas, De toute façon, pour l'instant, on ne fait qu'explorer. On veut juste savoir ce qu'il y a sous nos pieds. Mmh. Il n'est pas question pour l'instant d'explorer. Ils ont voulu nous rassurer avec cet argument. Ce serait incroyable aujourd'hui de le renverser en demandant que nos impôts financent le risque qu'ils ont pris parce qu'ils se sont dit « on va essayer de passer en force ». Et c'est ce qu'ils ont essayé de faire.
Ray, comme beaucoup d'habitants de cette région riche en gaz de schiste, avait cédé une partie de son terrain à la compagnie gazière pour qu'elle y installe des puits. Mais la contamination de l'eau l'a transformé en militant écologique.
Ça, c'est mon camion rien que pour l'eau. Je vais chercher de l'eau potable et je l'amène à tous ceux qui n'en ont pas.
De nombreux voisins de Ray ont succombé aux offres des exploitants. 5000 puits ont vu le jour ces dernières années en Pennsylvanie et des milliers d'autres devraient suivre.
Christian Huglot, Arnaud Gospon, que vous connaissez, pense que les pétroliers font le pari qu'un jour la France changera d'opinion. Quel est un peu votre sentiment ? Parce que là, d'accord, ça ne va pas se faire, donc ça va arranger le gouvernement, ça va cimenter, sans jeu de mots, on va dire, les relations avec Europe Écologie Les Verts. Donc c'est bon, maintenant, gaz de schiste, on n'en parle plus pendant un bout de temps. Mais quand même, dans le long terme, est-ce qu'il ne risque pas d'y avoir une usure ?
Non, je crois pas, parce que je vous donne une information qui est peut-être passée inaperçue, qui est très importante, parce que vous savez... Une des difficultés dans notre affaire du gaz de schiste vient du fait que le régime du code minier se faisait par déclaration. Il suffisait d'apporter un dossier, on donnait un coup de tampon, c'est comme ça que ça s'est passé. Et comme la loi est arrivée pour contrebalancer et dire arrêtez tout, c'est parce qu'il n'y avait pas d'étude d'impact, il n'y avait pas tout le système juridique de protection, d'enquête publique, etc. Or, il y a deux jours, le Parlement européen, c'est une réponse à votre question parce que ça concerne toute l'Europe, bien précisément, et le texte a été difficilement adopté, mais il l'a été, d'imposer à l'étude d'impact écologique précisément à la fois l'exploration et à la fois l'exploitation du gaz de schiste. Et deuxièmement, d'avoir dans la tête aussi de demander aux pétroliers une assurance pour couvrir les risques environnementaux. Donc par conséquent, dès lors que le régime est unifié en Europe, on n'a plus le même problème. C'est plus pareil.
Walter Bouvet, à travers cette histoire, il y a aussi le discours militant. C'est-à-dire que, bon, on ne veut pas forer, mais on ne veut peut-être même pas savoir. Quelle est votre réaction ?
Je ne vois pas pour quel motif on refuserait de connaître l'étendue d'éventuelles réserves que l'on a sous les pieds. D'abord, aujourd'hui, on utilise du gaz, on utilise du pétrole, trop, on le sait. Toutefois, on a besoin de connaître l'état de nos ressources. La question, c'est qui est l'arbitre de ce débat ? Est-ce que la recherche publique, la recherche fondamentale, délaisse le terrain faute de moyens et laisse à la recherche privée, qui est forcément orientée, et ce n'est même pas un reproche qu'on lui fait, c'est naturel, est-ce qu'on laisse à cette recherche privée le soin de nous dire, finalement, la façon dont il faut orienter les débats ?
Une réaction à cette remarque est tout à fait fondée, je partage cette opinion. Je voudrais simplement dire la chose suivante, c'est que cette... exploration de point de savoir s'il existe quelque chose ou pas est prévue par la loi. Ça n'a jamais été exclu par la loi. Et normalement, c'est le BRGM qui devrait effectivement se charger de ce genre d'opération. Mais c'est probablement une question de crédit. Et l'observation de dire que tout ça est laissé à la recherche privée est une erreur fondamentale. Il n'y a aucune raison que la puissance publique ne s'intéresse pas à ça.
Alors moi, je me permets de rajouter une petite information qui est sortie avec d'un bureau d'études qui s'appelle Bloomberg New Energy Finance aux États-Unis, qui est sorti le 3 octobre. Ce n'est pas du tout des enfants de cœur. Ils viennent de sortir qu'en Angleterre, avec les mêmes techniques de production aujourd'hui, donc fracturation hydraulique que l'on rebaptise massage de la roche, c'est formidable tout ça, ça coûterait 50 à 100% plus cher d'extraire du gaz de schiste en Angleterre qu'aux États-Unis. Et donc, ce serait plus cher... finalement, que d'acheter du gaz chez Poutine, voyez, voilà, ce qui ruine un petit peu les théories économiques des pros gaz de schiste aujourd'hui. Voilà. Alors, le débat n'est pas fini, et on a bien compris. Donc, ce numéro de Terra Eco, Walter Bouvet, gaz de schiste, la bataille de France a commencé. On vous retrouvera d'ailleurs pour la fin de l'émission. Vous nous emmènerez en Nouvelle-Zélande.
Sacré géranium. Tu sens bon la terre et toi aussi l'anémone. Tulipe, je te préfère. Puis de toute façon, vous sentez tout bon. Vous êtes toutes belles, mesdamoiselles. Ah, ce qu'on est bien dans ce jardin, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin. Être sous les poules et le coq ce conte fleurette. C'est vrai qu'il est seul, ce lapin, je crois que ça l'embête. Dis-toi le chien, je ne te prive de rien. Remue donc ta queue, fais-moi tes beaux yeux. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être sous. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou. C'est vous les légumes, enfin je présume, vous n'êtes pas reconnaissable. Il faut vous dire que l'hiver vient de partir, le temps est encore variable. Un coup d'arrosoir avant la tombée du soir, un coup de râteau autour des poireaux. Est-ce qu'on est bien dans ces jardins, loin des engins. Pas besoin de sous pour être bien, pas besoin de vin pour être chou.
CO2, mon amour, Denis Chessou.
Alors ça doit être bientôt la période des chrysanthèmes. On a préféré le géranium, donc sacré géranium avec Dick Hanegaard, choisi par Thierry Dupin, grand jardinier, donc lui aussi. Alors vous gênez pas hein, sur la page sur franceinter.fr. Vous souhaitez converser, c'est fait pour ça. Après, vous allez sur CO2 Mon Amour, vous en avez absolument l'habitude. Écoutez.
On arrive au sommet de la crête. Je me réjouis de ce moment avec cette magnifique vue sur les Alpes, ces beaux rochers gris, ces pins qui s'accrochent là comme ça au rocher. C'est vraiment un bel endroit, j'aime bien. Ça m'est arrivé quelquefois de dormir sur cette crête, ouais. Des fois dans la tempête. Voilà, grand corbeau. Salut Gaillard. Ça, c'est un oiseau dingue, hyper intelligent. Il a plus de 60 cris différents. Et il communique à distance, il se raconte des trucs, il voit tout. Rien ne leur échappe. On ne sait pas ce qui se passe dans leur tête. Ben, je trouve que quand on se regarde face à face, c'est hyper impressionnant. Notamment le renard, ça me frappe quand je me retrouve face à un renard, parce qu'il y a une intensité du regard qui est folle, et puis en même temps, il y a un mystère complet, parce qu'on ne saura jamais, fort heureusement d'ailleurs, ce qui se passe dans la tête d'un renard. Puis je trouve ça très beau. C'est vraiment l'incarnation du sauvage, c'est un autre monde, quoi. Et c'est vrai que j'ai ressenti ça aussi très fortement quand j'ai vu mes enfants naître. J'ai vraiment eu le sentiment, et pour l'un et pour l'autre, que je tenais dans mes bras un petit animal sauvage. Le même mystère et la même intensité, incroyable.
Vous imaginez un garçon qui a 11 ans. Il s'appelle Julien Perrault. On est en Suisse. Et alors ce garçon, dès 11 ans, il part interviewer l'hirondelle, le crapaud, le pissenlit, il dessine un peu maladroitement, il a lu la hulotte, il écrit ses premiers textes, un instituteur lui a ouvert aussi son monde, une espèce de tuteur merveilleux de la nature. Et puis aujourd'hui, on va fêter donc avec vous, Julien Perrault, les 30 ans de votre revue qui s'appelle La Salamandre. Très belle revue naturaliste en Suisse, mais que l'on trouve évidemment en France avec les abonnements donc, qui vont avec. Et vous allez aussi donc, avoir ce festival, on va y revenir, de La Salamandre. Mais peut-être d'abord pour commencer, d'abord bonjour à vous Julien Perrault. Et quelle est votre définition de la nature?
Bonjour Denis. Alors la nature, par définition, c'est ce qui échappe à la volonté de l'homme. C'est en tout cas la définition de François Terrasson, de Robert Ennard, que j'aime bien. C'est l'idée qu'en fait, c'est tout ce qui était là avant nous, Et c'est tout ce qui n'a pas besoin de nous pour bien se porter. Une forêt, par exemple, contrairement à ce que pensent certains forestiers, on a besoin des forestiers, évidemment, pour exploiter les forêts, pour en tirer du bois. Mais pour qu'une forêt se porte bien, on n'a pas du tout besoin des hommes.
Julien Perrault, donc on peut s'abonner à la Salamandre, hein, salamandre.net. On donnera toutes les indications sur le site de CO2 Mon Amour. Puis il y a aussi la petite salamandre. Quel rapport on a avec la nature quand on est en Suisse ?
La Suisse est un petit pays, très contrasté du point de vue de la nature, parce qu'en fait la majorité de la population habite sur ce qu'on appelle le plateau, qui est une grande plaine coincée entre le Jura et les Alpes, où habitent l'essentiel des habitants. Un territoire qui est très urbanisé, dans lequel il y a une très très forte pression actuellement de construction, de bétonnage de toutes sortes, et où il reste assez peu de nature, d'autant plus que la mentalité suisse de ce qu'on appelle le propre en ordre vise à tout faucher, tout ratiboiser, tout rendre bien droit et rectiligne et propre, donc entendez bien sûr sans nature. Et puis des deux côtés de cette plaine parfois un peu attristante, il y a le Jura d'un côté, côté Franche-Comté, et puis il y a les Alpes, évidemment, côté Savoie, Haute-Savoie, Italie, Autriche. Donc ces deux grandes régions montagneuses, heureusement, sont beaucoup plus sauvages encore, et on peut y faire des expériences extraordinaires. Moi, dès que je peux, je pars 2-3 jours en montagne, bivouaquer sous les étoiles, observer les animaux, et on peut encore vivre ce genre d'émotions dans ces grands espaces.
Les loutres recolonisent tout doucement les zones humides de Bretagne après avoir frôlé l'extinction. Il y en aurait eu 50 000 en France au début du XXe siècle, seulement 1000 en 1980, chassés pour leur fourrure, puis victimes de la dégradation de leur milieu naturel. La loutre a su s'adapter mais reste très vulnérable aux perturbations humaines, aux pollutions et surtout aux collisions routières. Alors les protecteurs de l'espèce installent sur des endroits stratégiques des passages comme cette banquette en béton. En temps de crue, les loutres y passent au sec plutôt que de traverser la route.
Alors, Julien, vous allez vous servir aussi de correspondant aujourd'hui donc en Suisse. Qu'est-ce que l'on constate ? On voit qu'il y a un retour assez imminent de la loutre et ça c'est une bonne nouvelle.
Oui, en fait la loutre qui a aussi beaucoup souffert en France du fait de la chasse, du fait des pollutions, du fait de toutes le terrible sort qu'on a réservé à tant de rivières. Et depuis 20-25 ans, elle est en train très discrètement de reconquérir l'est de la France. Et en fait, en Suisse, elle en a disparu il y a très peu de temps. Les dernières observations datent de 89. Et puis après, on nous a dit que la loutre n'en viendrait jamais, que ça ne servirait à rien de la réintroduire à cause des PCB et autres substances polluantes qui s'accumulent dans la graisse de la loutre, comme de tous les superprédateurs qui sont des pyramides alimentaires. Donc voilà, adieu la loutre. Et la grande nouvelle de cette année, c'est qu'il semblerait que la loutre revienne sur la pointe des pieds. Ce sera d'ailleurs le thème de la salamandre de décembre et de la petite salamandre de décembre aussi pour les enfants, parce que il y a eu deux observations. Il y en a une qui a été filmée à la partie orientale du pays, dans les Grisons. On en a vu attraper une truite. Mmh. Et puis, il y a eu aussi des traces de loutre au bord d'une rivière, dans la neige, près de la frontière française, du côté Haute-Savoie. Et ainsi, on pense que petit à petit, la loutre va revenir, mais ça prendra encore un peu de temps.
Un homme se régale en vous écoutant, qui est dans ce studio, ici, donc à Paris. C'est Jean-François Noblet, autre naturaliste, homme qui a été, en son époque, directeur de la FRAPNA, la Fédération Rhône-Alpes de protection de la nature dans l'Isère. Et puis après, qui s'est dit, je vais essayer de mettre mes idées au service de la collectivité, en ayant travaillé un certain nombre d'années au Conseil général de l'Isère et qui vient de sortir donc un ouvrage qui s'appelle « La nature au café du commerce, préjugés et lieux communs sur la faune et la flore » aux éditions Plume de Carotte. Bonjour Jean-François Noblet.
Bonjour, bonjour Julien.
Bonjour Jean-François.
Vous êtes connu à Ménigoutte.
Julien est quelqu'un que j'adore parce qu'il a un enthousiasme, un charisme.
Et alors Jean-François, vous sortez donc cet ouvrage « Préjugés et lieux communs sur la faune et sur la flore » parce qu'il se dit quand même pas mal de bêtises sur la nature, sur l'écologie, l'environnement.
J'ai essayé de prendre, une trentaine de lieux communs, de bêtises, de rumeurs qu'on entend sur la nature. Et puis j'essaye de leur faire un sort.
Le lierre tue les arbres, par exemple. Donc, l'Hedera helix, c'est ça le lierre, voilà, son petit nom. Oui.
Mais bien sûr que non, le lierre, ça n'est pas un parasite. Il ne fait pas comme le guide, il ne s'insère pas dans l'arbre pour le pomper sa sève. Mais c'est une plante extraordinaire, elle est persistante, elle fournit des fleurs et des fruits pendant la mauvaise saison.
Oui, parce qu'on va rappeler que ça fleurit en fait à la fin de l'automne.
Et donc ça nourrit les abeilles à une période difficile. Les oiseaux, les écureuils, les chauves-souris aiment bien se cacher dedans. Les chevreuils la mangent, c'est une plante médicinale. Et donc il n'y a absolument aucun intérêt à couper le lierre systématiquement dans les espaces verts ou sur les arbres d'ornement qu'on a chez soi.
Donc si on a un verger, oui, en revanche, ça c'est pas
bon. Oui, alors si on a un verger qu'on veut être, facile pour recueillir les fruits. On peut évidemment tailler le lierre. Mais à part ça, il n'y a absolument aucun inconvénient. C'est une ineptie. Moi, je connais des gens qui passent leur journée à sauver les arbres en coupant les lierres de partout. D'ailleurs, dans nos espaces verts, au bord des routes et tout, tous les arbres qui portent du lierre, on voit que les lierres ont été coupés. On voit les lierres jaunir sur le bord des routes. C'est idiot parce que c'est un facteur de biodiversité qui est très important.
En revanche, on ne mélange pas tout. Le lierre sur les vieux murs, c'est pas bon. Sur les murs qui sont lisses, c'est une chose. Mais sur les crépis, c'est quand même pas bon non plus. Hein.
Voilà. Bien, donc il faut évidemment, comme tout écologiste, savoir tenir raison. C'est-à-dire qu'il ne faut pas non plus exagérer. Mais sur la plupart des arbres, on peut laisser le lierre et c'est bon pour la biodiversité.
Comme il savait bien qu'il la mangerait, le loup ne se pressait pas. Seulement, quand elle se retourna, il se mit à rire méchamment. La petite chèvre de Monsieur Seguin. Et il passa sa grosse langue rouge sur ses babines d'amadou.
Alors, un sujet commun avec vous, avec Julien Perrault, ce sont les grands prédateurs. Julien Perrault, donc en Suisse, quel est l'état de la situation des ours, peut-être du lynx et aussi de la première meute de loups ?
Pour ce qui est de l'ours, en fait, la bonne surprise, ça a été que ces 8 dernières années, on a eu la visite en Suisse, donc à l'extrémité orientale du pays, de 8 ours successifs qui sont arrivés du Trentin. Donc c'est une province italienne où il y a une population d'ours, une petite population, mais qui a un trend positif, qui a une population quand même qui se développe. Donc ça a été une grande joie. Le seul problème, c'est que ces ours ont connu des fortunes variées. Certains sont repartis en Italie ou en Autriche. Et puis d'autres sont restés un peu en Suisse. Ils ont traîné, ils ont fait les poubelles. Ils se sont baladés, ils ont provoqué toutes sortes d'inquiétudes, ce qui fait qu'on a créé un plan de gestion de l'ours qui prévoyait différentes catégories et que, passé un certain type de comportement, on jugeait que l'ours devenait dangereux et qu'il fallait commencer à l'effaroucher pour qu'il comprenne qu'il ne fallait pas trop qu'il se rapproche de l'être humain. Et que passer au-delà de ça, certains critères plus stricts, l'ours devenait carrément très dangereux et qu'à ce moment-là, il fallait l'abattre. Alors c'est ce qui est arrivé malheureusement au seul ours qui a passé ses derniers hivers en hibernation en Suisse. Dans une vallée où les gens ont vraiment eu beaucoup d'inquiétudes, contrairement à d'autres endroits, d'autres vallées un peu plus loin, où l'ours était plutôt très bien accueilli et bienvenu. Il a eu la mauvaise idée d'hiberner dans la mauvaise vallée, probablement. Et au printemps, il y a eu toute une polémique, et finalement, officiellement, cet ours a été abattu, ce qui est évidemment un peu triste.
Qui craint le grand méchant loup, c'est peut-être vous, n'est pas nous. Voyez comme d'ailleurs on tient le coup. La 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 la.
Et le loup, comment ça se passe chez vous ?
Alors le loup, il y a des loups en Suisse, par la grâce de ceux qui remontent les Alpes depuis le sud, à travers l'Italie, à travers la France. Il y a eu des premières observations en 1995. Et puis beaucoup de ces loups qui sont arrivés chez nous, soit sont passés totalement inaperçus, et puis certains d'entre eux ont dû continuer dans le nord, jusque dans le Jura, dans les Vosges, en France et en Allemagne. Et puis pour ceux qui se sont fait repérer, ben ça s'est souvent assez mal terminé. Parce qu'il y a certaines régions montagneuses de Suisse où on est vraiment très 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 réfractaires aux grands prédateurs, comme certaines régions de France aussi malheureusement. Et du coup voilà, il y a eu pas mal de loups qui ont mal fini, qui se sont fait abattre officieusement, parfois officiellement, quand ils dépassaient les quotas du nombre de moutons qu'ils avaient le droit de tuer. Voilà. En parallèle, il y a quand même une grande.
C'est-à-dire que le loup est très peu sensible aux quotas, hein, vous voyez donc. C'est ça.
Alors le loup est peu sensible aux quotas. Par contre, les bergers ont été très fortement sensibilisés à prendre une mesure de protection, qui sont quand même efficaces. Et le deal, c'est que si un berger prend des mesures de protection, si vraiment il y a un accident, il sera dédommagé. Et peut-être qu'on abattra le loup si vraiment ça dépasse certaines limites. Si les mesures de protection ne sont pas prises correctement, et ben là, il n'y aura pas de soutien de l'État. Donc la bonne nouvelle quand même pour le loup, c'est qu'on a depuis un an et demi une première meute complète établie qui est dans les Grisons. Donc c'est aussi le canton à l'extrémité est de la Suisse. Et là, ça se passe assez bien. Il y a eu 4 ou 5 jeunes. Deux, malheureusement, sont morts dans des accidents de route et contre un train, mais il semblerait qu'il y en a encore 2-3 en vie, donc on espère que ça va continuer à se développer. Mais disons que la situation du loup reste très précaire quand même.
À Saint-Martin-Vésubie, tout a commencé par une rumeur. Des histoires étranges d'agneaux égorgés et de gros méchants loups. Au cœur de l'automne 92, la rumeur a fait comme le torrent, elle n'a cessé d'enfler jusqu'au jour où l'homme qui avait vu le loup s'est retrouvé face à la bête.
Jean-François Noblet, dans votre ouvrage La nature au café du commerce, donc on peut voir les chauves-souris s'accrochent aux cheveux, la chauve-souris suce le sang, les serpents têtent les vaches les loups s'attaquent à l'homme, mais je voudrais qu'on pointe surtout, les écologistes ont réintroduit les loups en France. On sait que c'est faux, ah, voilà. Donc il est arrivé en novembre 92 avec ses papates par ses propres moyens en traversant les Alpes, mais c'est intéressant quand même d'en savoir plus, parce qu'il y a encore 2-3 personnes qui le pensent. Hein.
Alors oui, effectivement, moi j'ai enquêté sur ce sujet parce que quand M. Estrosi a lancé sa commission d'enquête en 92, vous savez que ce député est particulièrement opposé aux loups, malheureusement, j'ai demandé à être entendu par cette commission. J'ai fait un vrai travail d'enquête pour savoir si la rumeur des réintroductions de loups par des écologistes fous en France était vérifiée. J'ai interrogé des dizaines de personnes, j'ai même fait des analyses de l'ADN de loups qui avait été trouvé par exemple en 54, qui avait été tué en 54 en Isère à Vigneux, avec une énorme battue, avec plusieurs centaines de militaires qui avaient tué ce loup. Donc je suis allé rechercher son cadavre, j'ai fait l'analyse ADN avec le laboratoire de Pierre Tabernet à Grenoble. Je suis allé également chercher l'ADN du loup de Fontan en 87, le premier loup qui est arrivé en France en fait, et qu'on a découvert par inadvertance après l'avoir tué. Alors j'ai réussi, en rusant un peu, à avoir l'ADN de ce loup. Et ces deux loups, déjà, étaient des loups italiens. Donc, on a toutes les preuves que tous les loups trouvés en France, morts ou vivants, si on a réussi à avoir de l'ADN sur
déjà
une
crotte, d'Italie, mais
venaient d'Italie.
Même au XVIe et XVIIIe siècle, dans la région Rhône-Alpes, c'est aussi du côté de l'Italie.
Voilà. Donc, la thèse de la réintroduction, elle ne fonctionne absolument pas. D'ailleurs, maintenant, elle est complètement éteinte. Oui. On a maintenant la preuve que des loups sont passés en 97 au Mercantour, le parc du Mercantour, ont été retrouvés en 2000 en Espagne. On a même un loup qui a été trouvé blessé sur une autoroute italienne, qui a été soigné, relâché avec un émetteur, qui est venu en France. Et puis après avoir été un peu dans le Mercantour, il a trouvé que les gens n'étaient pas très sympathiques avec lui, il est retourné en Italie. Donc la rumeur de la réintroduction, c'était une rumeur qui a été répandue, parce que si ça avait été le cas, on pouvait prétendre détruire tous ces loups parce que c'était contraire à la directive Habitat.
Puis pardonnez-moi, c'est pas le cas. Quand on connaît quand même le loup, déjà on a énormément de difficultés à l'observer et pour le capturer, je raconte pas, parce que c'est impossible.
Il aurait fallu le capturer en au moins 4 pour faire une réintroduction correcte. Mais quand on est sérieux, il faut pas faire peur aux gens. Et aujourd'hui, il y a des tas d'endroits où on peut cohabiter avec des loups sans aucune difficulté.
Et le petit chaperon rouge, évidemment, fait beaucoup de dégâts, on va dire. C'est clair.
Voilà. Voilà, mais ça, c'est une autre affaire.
Débat sans fin. Hein. C'est pas terminé. Et puis en ce moment, c'est quand même très très chaud sur le loup. D'ailleurs, on risque davantage les uns les autres de mourir d'une crise cardiaque, d'un cancer, d'un AVC, ce que l'on ne nous souhaite pas, plutôt que d'être bouffé par un loup. Mais ça, c'est autre chose. Au Moyen-Âge, non, ce n'est pas pareil. Tenez, on va aller en Auvergne avec Jean-Louis Murat.
Aimer, c'est être aimé, amour n'est pas querelle. Renforce-moi le cœur de couleurs immortelles. Si tout est vanité de ta flamme éternelle, presse ma vanité, garde-moi le premier. Si jeune d'aventure au grand gouffre marin, quelle mer en ma vieillesse tout à l'écart me tient. Que j'eusse aimé l'automne ou bien l'hiver, quelque part où que j'aille, partout la chose amère. Fougère dorée, la beauté du visage qui se hâte d'aller. Que je meure un instant si la chose interne. La saison est passée, ne cherche pas querelle. Que veux-tu déchirer au compte de maison? Que je perde courage, que je meure en t'aimant. Qu'ai-je fait pour mourir en ce lieu? Sur le sentier vulgaire où pleurent les amoureux. Depuis l'homme premier en ce monde inconnu, les choses non pareilles s'échappent dans les nues. La bête est dangereuse dans son plus grand besoin. Il me faudrait le cœur d'un magicien. Jamais un cœur ne change, il faut monter plus haut. Sur cette étrange terre parmi les animaux, aimer c'est être aimé, amour n'est pas querelle. Renforce-moi le cœur de couleurs immortelles.
Alors la chanson, je vous l'accorde, n'avait rien à voir avec l'Auvergne, mais quand même, notre barde l'a peut-être écrite là-bas, chez lui, hein, près du col de la Croix-Morant ou juste derrière. Oui, on a quand même aussi, on parlait du petit chaperon rouge, on sait très bien qu'on se construit en dépassant sa peur, hein, c'est un grand classique, hein, c'est pas que du Dolto, donc le loup a aussi donc, cette fonction. Julien Perrault, donc, je vous retrouve d'ailleurs en remerciant nos amis de RTS qui vous accueillent aujourd'hui donc, à Lausanne, donc, en Suisse, avec ce festival de la Salamandre. Donc la semaine prochaine, hein, ce sera du 18 au 20 octobre, ça va être à Morges, et il y a quand même tout un travail, puisqu'on parlait des enfants, en direction des minots. Alors peut-être changeront-ils le regard de leurs parents, mais Julien, est-ce suffisant ?
Oui, alors on peut voir les choses de deux manières. On peut se dire que c'est super que les enfants s'intéressent à la nature parce que c'est l'avenir. Et puis en même temps, c'est un peu dangereux à mon avis parce qu'on oublie un peu vite que ceux qui décident aujourd'hui et ceux qui mènent la planète, c'est pas les enfants, malheureusement d'ailleurs, probablement, c'est les adultes. Et donc si on reporte tous nos espoirs sur les enfants, eh ben, d'abord ça nous déresponsabilise complètement et puis on perd 20 ou 30 ans. Donc moi, ce que j'observe en tout cas, c'est qu'à travers la lecture de La Petite Salamandre, que lisent beaucoup d'enfants, ça sensibilise les enfants, c'est bien. Mais de manière indirecte, ça sensibilise aussi des parents, des adultes, des enseignants, qui peut-être ne liraient pas forcément La Salamandre pour eux, et que du coup, on fait coup double. Mais je suis assez en réaction contre cette pensée qui veut que la nature, c'est chou, la nature, c'est pour les enfants. Et puis quand on grandit, on passe aux choses sérieuses. Ça me révolte.
Jean-François Noblet, les vautours tuent les animaux vivants. Ça aussi, on l'a entendu.
Oui, alors malheureusement, on a eu beaucoup de polémiques cet été sur le sujet. Bon, on sait qu'il y a 4 espèces de vautours qui ont été réintroduits ou qui viennent naturellement chez nous.
On parle du vautour fauve,
oui,
principal.
Oui, on va essentiellement parler du vautour fauve. Alors, les vautours fauves sont des animaux nécrophages. Ils ne sont absolument pas outillés pour prédater un animal vivant. C'est-à-dire que, moi encore récemment, j'ai fait un affût photo sur un cadavre de chèvre et je me suis rendu compte avec quelle difficulté les vautours, alors que j'étais à moins de 2 mètres du cadavre, ne pouvaient pas percer la peau parce que leur bec n'est pas fait pour ça. Et les cerfs des vautours ne sont pas également préhensibles. Donc on sait que les vautours ne vont pas capturer des animaux. Par contre, si on a un animal qui est coincé la tête en l'air dans un grillage ou qui s'est renversé dans un lapiaz et qu'il est immobile, qu'il ne peut plus bouger, si les vautours remarquent que pendant un certain temps il y a immobilité, ils vont commencer à s'approcher et puis petit à petit si l'animal ne bouge vraiment pas, s'il est subclaquant ou agonisant,
donc ce sont ces cas-là.
Ils vont pénétrer par les orifices naturels. Les grands corbeaux vont d'ailleurs commencer le boulot, ils vont arracher les yeux, etc. Et petit à petit, alors il se peut qu'une vache qui met bas
d'une
manière
tourné.
Difficile, que le petit est déjà mort, etc. Il se peut qu'il y ait attaque et tuer l'animal en question.
Alors on a pu observer ceci, Jean-François Noblet, mais surtout, dites-nous ce qui s'est passé en Espagne, parce que donc les Pyrénées, évidemment, regorgent aussi de vautours fauves, mais il y a eu une loi quand même qui a interdit en fait aux bergers de laisser les cadavres de bétail à l'air libre.
Voilà, ça c'est une loi européenne qui heureusement maintenant a été abolie, donc l'équilibre revient. Les vautours vont pouvoir jouer leur rôle d'écarisseurs naturels. Ce qu'on peut dire, c'est que quand même, pendant très longtemps, il y a eu une cohabitation extrêmement intéressante entre les bergers, l'élevage et les vautours, puisque en 2010, on a calculé que l'écarissage naturel qui a été favorisé par les vautours avait fait économiser 430 000 euros pour les bergers. Et c'est des camions en moins pour aller à l'écarissage, etc., etc. Et on sait également que la nourriture qui est absorbée par les vautours, eh bien, l'estomac des vautours va détruire toutes les bactéries, voilà, les maladies qui risquent de se propager dans les troupeaux. Donc, finalement, les vautours sont extrêmement intéressants comme alliés de l'agriculture et des éleveurs pour entretenir, disons, les troupeaux d'animaux sauvages ou domestiques en bonne santé.
C'est toujours ce lien, en fait, homme-nature que vous essayez de mettre en avant, Julien Perrault, parce que c'est, évidemment, on l'a dit un peu au départ, on a coupé ce lien dans nos sociétés techniciennes qui, à la fois, nous apportent du bien-être, mais aussi quand même une sacrée coupure dans nos villes urbanisées. Et ce travail-là, c'est aussi un peu celui de la salamandre.
C'est ça, finalement, la nature. C'est des histoires magnifiques qui nous attendent au coin du bois, qui nous attendent dans la forêt, qui nous attendent au bord d'une mare, tout au long des saisons. Et personnellement, je trouve que si on est un petit peu à l'écoute de toutes ces belles histoires, ça enrichit prodigieusement notre vie. Et ça peut nous donner aussi un petit peu de ressources supplémentaires, de courage et de force dans cette époque qui est effectivement malgré tout parfois un peu angoissante.
Julien, une histoire, un animal, une plante, une rencontre, que pouvez-vous nous offrir ?
Juste maintenant, comme ça, le chevreuil que j'ai vu ce matin au coin du bois, magnifique, j'étais très content qu'il ait échappé aux chasseurs. Je l'ai regardé de loin et puis après, j'ai commencé à travailler plein de fois dans ce que je faisais.
Comme un arbre dans la ville, je suis né dans le béton, coincé entre deux maisons, sans abri, sans domicile. Comme un arbre dans la ville.
CO2 Mon amour, Denis Chessou.
Jean-François Noblet, les chasseurs régulent la faune. Ça fait aussi partie des idées reçues, ça, dans votre bouquin.
Bah oui, disons que quand on veut utiliser le terme régulation, il faut savoir de quelle quantité on parle et puis savoir à quelle quantité on veut arriver. C'est-à-dire qu'il faut avoir un minimum d'expression scientifique
en
la matière.
Pardonnez-moi, j'ai jamais vu autant de ragondins, de sangliers, de corneilles, des tourneaux aujourd'hui.
Enfin... Oui, alors que ce sont des espèces qui sont classées invisibles, donc a priori les chasseurs pourraient les tirer, les piéger, les détruire en tout temps, tout moment, etc. Or, visiblement, ils n'ont pas réussi à réguler ces espèces. Non, ça c'est un argument scientifique qui n'est absolument pas sérieux, c'est-à-dire que les chasseurs ne régulent absolument pas, c'est-à-dire que, par exemple, eux, ils ont besoin de beaux trophées, donc ils vont plutôt dans le gros gibier tirer les plus beaux animaux, alors que normalement, si on voulait faire de la prédation naturelle, imiter la prédation d'un loup ou d'un lynx, il faudrait aussi bien prendre des jeunes animaux que des très vieux, ou des mâles ou des femelles. Donc la régulation chez les chasseurs n'existe pas, c'est vraiment un lieu commun éculé qu'il faut une bonne fois pour toutes lui botter les fesses.
En revanche, lorsque l'on va par exemple dans la réserve de chasse nationale des Bauges, là on peut voir le travail qui est effectué à la fois avec des naturalistes et des chasseurs, et là ils ont réussi à mettre au point donc un plan quand même de gestion assez intelligent qui fait que les chamois se portent quand même pas trop mal. Voilà, faut aussi leur rendre hommage quand les choses fonctionnent.
Hein. Oui, tout à fait.
Ah mais écoutez, monsieur, il faut venir au bureau pour remplir une demande de branchement.
Mais j'ai pas besoin de remplir une demande. Quand j'ai fait installer la lampe à pétrole, et on m'a rien demandé du tout. J'ai acheté ma lampe, j'ai mis le pétrole, j'allume et ça fait la lumière.
Ah d'accord, une lampe à pétrole, mais pour l'électricité c'est différent, monsieur. Il faut poser les compteurs.
Et quel compteur? Pourquoi faire un compteur?
Pour amener le courant, monsieur.
Mimi.
Julien Perrault, dites-nous juste quelques mots de la politique énergétique en Suisse.
Alors, grand tournant, 3 mois après Fukushima, la Suisse a pris une décision courageuse, sortir du nucléaire. Mais évidemment, ça ne va pas tout seul parce qu'on n'en continue pas moins de consommer de plus en plus d'énergie. Donc, c'est évidemment problématique. Le nucléaire a évidemment l'avantage de ne pas produire beaucoup de CO2. Donc, si on veut sortir du nucléaire, il faut trouver plein d'alternatives. Alors, ce qui se passe maintenant, c'est justement qu'il y a toute une série de choses qui se mettent en place, aussi bien au niveau du solaire, au niveau de l'énergie éolienne, au niveau de continuer à développer l'énergie hydraulique qui est déjà très développée en Suisse.
C'est la majorité de votre électricité, l'énergie hydraulique en Suisse ?
Oui, les deux principales sources, c'est hydraulique et nucléaire. On a quand même 5 belles centrales nucléaires. Mais si vous voulez, le résultat de ça, ce qui est assez étonnant, c'est qu'il y a un dommage collatéral pour la nature. C'est-à-dire que tout le monde est en train de se dire qu'il faut mettre des éoliennes partout, alors qu'on sait très bien que c'est dramatique pour les oiseaux, pour les chauves-souris ou pour le paysage. Tout le monde est en train de se dire qu'il faut faire des micro-centrales pour turbiner tous les petits cours d'eau qui ont encore été épargnés, ce qui va être dramatique pour les derniers poissons qui vivent dans nos rivières. Donc, on se retrouve dans une situation assez étonnante où il y a des écologistes pour qui la priorité, c'est l'énergie, qui se battent contre des naturalistes ou des écologistes pour qui la nature, c'est aussi important. Donc là, on est dans une situation qui est difficile. Et moi, ça m'amène à la conclusion que finalement, la première grande priorité, ça devrait être d'économiser l'énergie, tout simplement. Mais quand même, d'économiser, d'isoler massivement tous les bâtiments, de continuer à réduire la consommation énergétique des moyens de transport, de taxer aussi l'énergie de manière plus forte en redistribuant le produit de cette taxe à tous les contribuables. Enfin, toute une série de mesures qui paraissent complètement évidentes quand on voit l'état de la planète et qui ont manifestement pas tellement l'air de préoccuper nos dirigeants, que ce soit en France, en Suisse ou ailleurs. Et ça, c'est très, très dommageable.
Julien Perrault, que va-t-il se passer donc à Morges le week-end prochain, à partir de vendredi, dans ce festival de la Salamandre, on va fêter vos 30 ans?
Alors, plein de choses, des films magnifiques, beaucoup d'avant-premières en présence des réalisateurs, deux expositions incroyables, l'une avec des gravures, des aquarelles et des croquis d'un très grand artiste et naturaliste suisse, Robert Hénard, l'autre une immense exposition avec des photos d'un concours international de photos sur les oiseaux. Il y aura énormément d'animations pour tous les âges, pour les enfants, des découvertes et trois jours de fête, deux soirées spéciales à l'occasion des 30 ans de la Salamandre. Et tout le programme, évidemment, est sur salamandre.net.
Qu'est-ce qui vous anime, Julien Perrault, encore aujourd'hui? Alors, vous êtes tout jeune, il faut quand même le dire. Mais
Oui, j'ai 41 ans, ça va, je suis encore un vieux schnock. Mais ce qui m'anime, c'est la passion. Et puis, c'est la conscience que voilà, j'ai qu'une seule vie, j'ai qu'une seule planète. Donc, j'essaie de faire tout ce que je peux à ma modeste échelle. Je fais ma part du colibri, comme dirait Pierre Rabhi.
Mmh, exactement. C'est vrai qu'on est submergés les uns les autres par des nouvelles qui ne sont pas très joyeuses. Et en même temps, on sait qu'il y a quand même des possibles.
Ben oui, évidemment. Puis après, il y a des coups de blues. Quand on est en train de prendre conscience qu'on va vers une ère où le pétrole sera cher, on se dit, bon, on va arrêter de faire des grosses bêtises. Et puis après, quand on voit qu'on commence à exploiter les gaz de schiste et puis de provoquer des catastrophes environnementales presque à l'échelle continentale pour gagner 20, 30 ou 50 ans et continuer à réchauffer le climat à vitesse effrénée, évidemment, c'est déprimant. Mais bon, ma foi, c'est comme ça. Et il faut essayer de se battre contre ça. Et puis, je pense de nouveau que la nature, c'est une ressource. Et moi, personnellement, quand j'ai un petit coup de blues, je pars en forêt, je pars en montagne, je m'oxygène, je vais observer des animaux, je vais m'immerger dans la nature. Et ça me redonne de la force, de la foi et du courage.
Un grand merci, Julien Perrault. On vous souhaite un très bon anniversaire de trentenaire. Et puis, on vous retrouvera peut-être pour les 50 ans de la Salamandre. Au revoir, Julien.
Merci à vous. Au revoir, Denis.
Et puis, la nature au Café du Commerce, donc Jean-François Noblesse, c'est dans la collection Les Engagés aux éditions Plume de Carotte. Tenez, un tube international.
Sa maison est en carton.
Pirouette, cacahuète.
Sa maison est en carton. Les escaliers sont en papier.
Et pourquoi? Et pourquoi donc, Walter Bouvet, donc dans ce numéro de Terra Echo? Eh bien parce que vous nous emmenez aussi en Nouvelle-Zélande, dans la région de Canterbury. Nous sommes à Christchurch, deuxième ville la plus peuplée du pays, de la Nouvelle-Zélande, qui a subi en février 2011 un tremblement de terre. Donc là, c'est un article qui est signé Corinne Moutou. Et que voit-on, Walter Bouvet?
Eh bien, on voit pousser une cathédrale en carton, qui d'ailleurs a porté le sobriquet, quand le projet est né et que certains le voyaient avec un œil un peu étonné, de cathédrale Toblerone.
Oui.
Alors pourquoi? Parce qu'en fait, les fidèles de la paroisse ont fait appel à un architecte qu'on connaît un peu en France, puisqu'il a réalisé le centre Pompidou de Metz. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais je vous invite à faire une petite recherche.
Ici, avec un très joli toit, qui malheureusement a eu quelques petits dégâts parce qu'il y a eu beaucoup de neige à un moment, mais voilà.
Exactement. Bon, cet architecte travaille sur les structures en carton et a proposé de reconstruire cette cathédrale en forme de A, c'est-à-dire en fait sans toit, juste avec deux pentes qui se rejoignent, et à partir d'une soixantaine de tuyaux d'un diamètre assez large, de quasiment un mètre, des tuyaux en carton renforcé. À l'intérieur de ces tuyaux, ils ont glissé des pieux en bois pour que la structure soit solide, dans l'idée de reconstruire une cathédrale un peu temporaire, le temps que l'on reconstruise l'autre qui, elle, était en pierre, mais a beaucoup souffert du tremblement de terre.
Alors cet homme-là, donc, il s'appelle Chirigouban, c'est très intéressant parce qu'il a été ancien consultant au Haut-Commissariat pour les réfugiés, et donc il s'est spécialisé dans la construction de structures temporaires pour répondre aux catastrophes de tout type. Mais en fait, ces matériaux sont faits pour durer.
Exactement. La paroisse de Christchurch a fait appel à cet architecte. C'était au printemps 2011 et lui venait d'intervenir dans la zone sinistrée du nord-est du Japon après le tremblement de terre et le tsunami. Mmh. Et donc il est venu les voir, il leur a fait cette proposition. Et c'est vrai que l'idée de départ, c'était plutôt de faire du temporaire comme il l'a fait dans d'autres occasions. Et en réalité, parce qu'il fait appel à des matériaux locaux, que ce soit pour le carton, que ce soit pour le bois, parce qu'il y a une vraie recherche esthétique dans ces bâtiments et parce que surtout, à l'usage, les fidèles se rendent compte qu'il fait beaucoup moins froid que dans une cathédrale de pierre, oui. que l'acoustique est excellente, qu'ils ont un bâtiment qui est vraiment d'une grande esthétique, qui est absolument magnifique. Eh bien, pourquoi ne pas continuer avec ? Et là, ce qu'il ressort de tout ça, c'est que ce sera peut-être la cathédrale pour les 50 prochaines années.
Et puis symboliquement, c'est intéressant parce que ça a été quand même monté vite. On a eu cette notion d'espoir qui est revenue. Et ceci, simplement,
tout à fait.
Quelques avenues de l'épicentre du séisme. C'était pas loin du tout.
Ah oui, c'est un jet de pierre. Et ce que vous dites est très important. Il insiste sur le fait que ces reconstructions à base de carton permettent de penser les plaies rapidement parce que justement il y a une lumière, c'est le cas de le dire, il y a une perspective après un choc subi par la population. Il y avait eu 180 morts à la suite de ce séisme.
Merci à vous Walter Bouvet, donc numéro de Terra Echo d'octobre 2013, oui tant qu'à faire, c'est quand même mieux que 2050 ou bien 1925. Nous avons encore un message, oui.
Bonjour Monsieur Denis Chessou et l'émission CO2 Mon Amour. Éric Lemeux en direct du salon Il est Bio dans le 35 qui se déroule ce week-end. Pour la première fois cette année, on a la chance d'avoir un triple salon. Dans la mesure où on a un salon professionnel, La Terre est notre métier, c'est le 12e. On est à la 22e édition du salon Il est Bio qui présente et défend les valeurs de l'alimentation biologique, du jardinage bio, de l'agriculture bio, du bien-être, de l'habitat, des énergies renouvelables, auxquelles on ajoute cette année le Forum des Transitions, qui sont des thèmes, qui sont des façons de faire que nous, on pratique depuis bien longtemps déjà, tout simplement de vivre avec le bon sens, voir les choses positivement et se débarrasser d'une forme de morosité ambiante qui ne cesse de nous entourer.
Mais comme l'île Vilaine, c'est un petit peu grand, que vous avez oublié de le mentionner, c'est quand même à Guichin que ça se passe les choses. Merci à Albert Houck, merci à Séverine Bouvard, Christophe Imbert, notre réalisateur, Anne Gouzon qui nourrit les sites. La tue du Mont-Petit-Loup, demain 19h55, vivre avec les bêtes, demain ce sera à 15h. Avec Alain Bougrain-Dubourg et je vous retrouve avec grand plaisir la semaine prochaine. Bon week-end, vous l'avez compris, il est 15h sur France Inter.